Zed, juste un mot de tête.
La web radio, pas prise de tête.
Bonjour. Aujourd'hui, sur 100 mots de tête, nous recevons Jean-Paul Goutenoir et Anne-Marie Bernardoum, qui font partie de l'association Épilepsie France.
Nous avons souhaité les inviter, car certains adhérents du GEM sont épileptiques, et nous voulions mieux comprendre leurs difficultés.
De plus, lutter contre les préjugés liés à cette maladie nous semble primordial.
Pourriez-vous vous présenter et nous présenter votre association?
Je m'appelle Jean-Paul Goutenoir. Je suis délégué départemental de l'association Épilepsie France. Précédemment, dans ma vie professionnelle, j'étais directeur d'établissement spécialisé pour enfants et adolescents épileptiques. Et j'ai présidé quelques années l'office départemental des personnes handicapées de l'Isère. Donc je suis à la création d'Épilepsie France. Puisque c'était la fusion de deux associations, le Bureau français de l'épilepsie, qu'on a fondé en 91, avec des neurologues, des professionnels, des personnes épileptiques elles-mêmes. C'était très important pour nous que ce soit les personnes épileptiques qui prennent le pouvoir, au lieu que ce soit les professionnels, qui prennent le pouvoir et qui ramènent un petit peu leurs connaissances dans le domaine de l'épilepsie. Et dans les années 2000, il y a eu la fusion donc, de deux associations, Bureau français de l'épilepsie et l'association Arpège, qui était spécialisée pour les enfants. Et on a fusionné tout ça pour devenir Épilepsie France. C'est la seule association aujourd'hui dans le domaine de l'épilepsie qui est reconnue d'utilité publique, avec une reconnaissance d'utilité publique en 2009.
Alors moi, je suis Anne-Marie Bernadou. Je fais partie aussi de l'association maintenant Épilepsie France. Auparavant, je travaillais dans une entreprise multinationale. Seulement, les choses se sont très mal passées du fait que je suis épileptique. Et j'ai connu cette association. Et depuis, je travaille avec Jean-Paul et puis d'autres personnes. Et je fais aussi du travail concernant l'association.
Donc, pour dire ce que l'association Épilepsie France, c'est une association donc nationale aujourd'hui qui a autour de 2500 adhérents au niveau national, avec des délégations. Au départ, c'était régional, maintenant c'est devenu départemental. Et la délégation Isère, Épilepsie France Isère 38, donc, se retrouve à peu près tous les mois à la maison des associations. On pourra s'y croiser parce que je sais que vous y êtes aussi. Voilà, pour mener des groupes de parole. Mais notre action ne se limite pas seulement à l'Isère, puisqu'on intervient aussi sur les Savoies, la Savoie et la Haute-Savoie, et jusqu'à présent, on intervenait également sur la Drôme et l'Ardèche. Mais maintenant, il y a des délégués départementaux sur la Drôme et l'Ardèche qui vont nous faciliter le travail, parce que la vice-déléguée qui est Francine Plossu, que vous avez dû connaître, qui est médecin du travail, c'est elle qui intervient le plus souvent dans les réponses au téléphone. Et puis la deuxième vice-déléguée, c'est Gisèle Perrin-Mermoz, qui était institutrice dans mon établissement, institutrice spécialisée, et qui s'occupe et qui connaît parfaitement tous les troubles cognitifs des enfants et des adolescents sur le plan de l'épilepsie.
Comment votre association est-elle née?
L'association est née, j'ai expliqué tout à l'heure, en 91. C'était déjà le regroupement de plusieurs associations au niveau national, des petites associations qui existaient partout. Et la Ligue française contre l'épilepsie, qui avait été fondée en 1947 par le professeur Henri Gastaud, avait un conseil, c'est le comité scientifique médical dont je faisais partie à cette époque-là, et on avait un comité social, et pour répondre davantage aux interrogations internationales et être présent dans les instances internationales, il fallait à ce moment-là que les épilepsies soient représentées par des patients. Et à ce moment-là, on a monté le Bureau français de l'épilepsie. Voilà, donc après, j'ai parlé de la fusion tout à l'heure. Mais vous voyez, c'est un long cheminement. Depuis 1947, le docteur Henri Gastaud, seulement pour les médecins, neurologues, on appelait ça avant des pédopsychiatres, des psychiatres, des neuropsychiatres. À partir de 68, il y a eu une fusion. Les psychiatres sont restés dans le champ de la psychiatrie. Et il s'est fondé la neurologie, puisque l'épilepsie est une maladie neurologique. et pas psychiatrique, neurologique, mais qui peut aussi avoir des conséquences quelquefois psychiatriques. Voilà, donc le comité social de cette Ligue française contre l'épilepsie a fondé en juillet 91 le Bureau français de l'épilepsie, qui a fusionné après, je vous l'ai dit, avec Arpège à partir des années 2000, 2003 ou 2004, je ne sais plus, et on est maintenant reconnu d'utilité publique. Alors le rôle de notre association, c'est d'abord de faire connaître l'épilepsie et de dédramatiser tout ce qui peut se poser autour de l'épilepsie. Parce que l'épilepsie, c'est une maladie qui est connue depuis l'Antiquité, parce que traverser les périodes Moyen-Âge, etc., mais qui a toujours été une maladie méconnue et qui a fait peur aux gens. Hein, comme la maladie mentale fait peur aux gens, l'épilepsie faisait peur aux gens. Et jusqu'au XIXe siècle, avec Charcot, les personnes épileptiques étaient enfermées dans les hôpitaux psychiatriques au dernier degré de l'hôpital psychiatrique, parce qu'ils faisaient plus peur par l'aspect spontané de leur crise. On n'avait pas les traitements, il n'y avait rien du tout. Donc notre rôle, c'est de faire connaître l'épilepsie, raconter ce que sont les épilepsies, parce qu'on ne parle pas d'épilepsie, mais on parle des épilepsies, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc notre premier rôle, c'est de faire connaître l'épilepsie. Notre deuxième rôle, c'est d'aider les personnes épileptiques, parents, enfants, adultes, puisque ça touche tous les âges de la vie, hein, jusqu'à la fin de la vie. Voilà, de les accompagner dans leur démarche sociale, scolaire, professionnelle, etc. Donc, on fait cet accompagnement sur le département de l'Isère. Voilà, et puis, chaque fois qu'on peut aider sur un dossier à la MDA maintenant, enfin la DAPH, on va aider les personnes à constituer son dossier en lien avec les médecins neurologues ou les assistantes sociales de secteur. Donc voilà, deuxième mission, donc faire connaître, aider dans les démarches administratives et juridiques quand elles sont nécessaires, parce qu'il peut y avoir aussi des démarches juridiques. Donc on essaye d'aider dans la mesure de nos moyens, parce qu'on a quelques professionnels parmi nous dont je fais partie. Et je disais tout à l'heure, Francine Plossu est médecin du travail, donc elle a une grande connaissance de l'accès à l'emploi. Gisèle pour la scolarité, et puis Anne-Marie, bien entendu, avec son vécu personnel, pour aider toutes les personnes en la matière. Voilà, et puis donc, on s'occupe aussi d'une réunion annuelle pour les familles, les fratries, pour bien connaître, pour aider les enfants. Et puis, on a une réunion annuelle entre nous, une fois pour faire un pique-nique généralisé, manière un peu festive pour qu'on se rencontre. On est souvent une quarantaine, cinquantaine de personnes. Et puis voilà, et puis tous les mois, on a donc des réunions à la Maison des Associations de 17h à 19h, 17h30 à 19h30 même, voilà, où on reçoit des nouvelles personnes qui ont besoin de renseignements. Et puis on a un groupe de parole qui permet à chacun d'exprimer ses difficultés du passé, mais aussi ses difficultés du présent, hein, pour dire voilà comment ma maladie évolue, voilà quel traitement je prends, voilà quels sont mes problèmes avec l'emploi, voilà quels sont mes problèmes sociétaux, voilà ce que c'est. Voilà. Donc on échange entre nous de toutes ces façons-là, en espérant bien entendu que ce qui se dit ne sera pas redit à l'extérieur, c'est ce qui est le cas, et qu'effectivement ce qu'on dit permet à la personne de mieux vivre. Parce que l'intérêt de ça, c'est donc la première chose, c'est mieux vivre sa maladie, et ça c'est souvent les médecins qui s'en servent. Et deuxième chose, c'est mieux vivre dans sa vie quotidienne. C'est ça l'important, un peu comme vous ici, il faut donner les éléments pour bien vivre dans sa vie quotidienne. Voilà notre rôle au niveau départemental.
Qu'est-ce que l'épilepsie ?
Alors, l'épilepsie est une maladie excessivement complexe et très différente. C'est pour ça qu'on ne parle pas de l'épilepsie, mais on parle des épilepsies. Donc, ça touche aujourd'hui à peu près entre 500 et 600 000 personnes en France. Dans ces 500 000 à 600 000 personnes, si vous voyez, il y a 70% de personnes qui sont atteintes de cette épilepsie ou qui vivent cette épilepsie, qui ont une vie quasi normale sous traitement ou à peu près normale sous traitement. Hein, il y a deux formes pour guérir l'épilepsie ou pour atténuer les troubles de l'épilepsie, puisque c'est une maladie symptomatique. Donc, la première chose, c'est de donner des traitements qui ont beaucoup évolué au fil du temps. J'ai la preuve, moi, je ne connais même plus les derniers traitements parce que ça fait 18 ans que je suis à la retraite déjà. Donc, ça vous donne mon âge. Voilà. Donc, du coup, les traitements. Et puis, le deuxième traitement, c'est plus curatif, c'est la neurochirurgie de l'épilepsie, qui devient aujourd'hui beaucoup plus fréquente, puisque effectivement, jusqu'à présent, on était à 5% de personnes qui étaient susceptibles d'être opérées Et puis à Grenoble, on a un très 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 bon service de neurochirurgie de l'épilepsie. On est en pointe sur la neurochirurgie, voilà, avec le docteur Philippe Kahn notamment. Et cette neurochirurgie, aujourd'hui, elle serait passée à peu près à 10% des personnes. Mais tout le monde ne peut pas avoir une chirurgie. Pourquoi ? L'épilepsie, en gros, il y a deux choses principales, deux critères principaux. C'est les épilepsies dites généralisées. Ces épilepsies qui embrassent totalement le cerveau, qui sont souvent des crises tonico-cloniques, c'est-à-dire que le cerveau est en prise, c'est un court-circuit électrique cérébral, si vous voulez, qui va toucher les neurones. Les neurones, par le principe des synapses, va donner une décharge électrique dans le cerveau, et cette décharge électrique va provoquer la crise d'épilepsie généralisée tonico-clonique, où la personne tombe, perd conscience, s'agite, va, etc., etc. C'est des crises qui sont relativement fréquentes. Et puis la deuxième catégorie, ce sont l'ensemble des épilepsies partielles, c'est-à-dire elles sont localisées dans une zone du cerveau et elles vont donner des manifestations cliniques, c'est-à-dire ce qu'on peut observer dans la vie quotidienne en regardant la personne, hein, parce qu'une personne peut avoir des mouvements myocloniques, par exemple, avec les yeux comme ça, où elle va déambuler. Il y a plein de formules dans ces maladies, suivant ce que l'atteinte cérébrale, ce qu'elle soit frontale, temporale ou pariétale ou occipitale. Suivant dans le cortex, à droite ou à gauche, ça va donner des crises totalement différentes. Et ces crises partielles, elles sont fort nombreuses aussi. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire en France, c'est qu'il y a à peu près donc 70%, c'est ce que je dis, qui ont une vie quasiment normale. Et puis il y a 30% des personnes qui ont ce qu'on appelle les épilepsies pharmaco-résistantes. C'est-à-dire que le traitement fait rien ou pas grand-chose, même si ça améliore quand même. Et on est en perpétuelle recherche sur ces épilepsies-là pour savoir comment on peut les traiter convenablement, soit par la médication, soit par la neurochirurgie. Et puis, il y a donc 10% de personnes, dans les pharmaco-résistants également, qui ont des maladies bien plus sévères, avec des troubles associés, neurologiques bien sûr, psychiatriques, des troubles moteurs, des troubles, etc., en fonction de la précocité de l'épilepsie, de la découverte de l'épilepsie et du déclenchement de l'épilepsie. Et ce sont des personnes qui sont souvent en institution. Et moi, j'ai dirigé pendant 30 ans l'IME Les Violettes à Lens-en-Vercors et Villard-de-Lans, où on avait des enfants venant de toute la France pour être soignés et compris et aidés, aussi bien sur le plan scolaire et professionnel, avec leur épilepsie. Alors, l'épilepsie, on dit, ça veut dire, quand on parle de ça, on dit que c'est une épilepsie multifocale. Ça veut dire qu'elle peut partir dans tous les sens. Voilà, alors elle a aussi plusieurs origines, l'épilepsie. Ça peut être des épilepsies qui sont nées dans la période utérine pendant la conception. Donc il y a une malformation cérébrale qui va s'organiser à ce moment-là. Ça peut être un accident à la naissance avec un manque d'oxygénation qui va ralentir le développement cérébral, qui va porter des problèmes que vous connaissez aussi certainement chez vous quelques-uns. Et puis, il y a des épilepsies qui vont arriver principalement dans la petite enfance. Alors, elles sont généralisées ou partielles et qui vont porter des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles d'apprentissage qui sont difficiles à réguler. Ça peut être un accident de circulation qui va endommager le cerveau et ça peut produire des crises d'épilepsie. Voilà.
Et comment ça se manifeste sur les personnes ? Comment on voit qu'elles sont épileptiques, les personnes ?
Alors, comment on diagnostique-t-on l'épilepsie ? C'est comme du fait de sa complexité et de sa pluralité. C'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer, notamment chez l'enfant. Alors, il y a des enfants qui vont faire des crises d'épilepsie dès la naissance. Syndrome de West, par exemple, c'est ce qu'on appelle le syndrome de West. Il y a des bébés nourrissons à la naissance, ils se mettent à convulser et ils font jusqu'à 20-30 crises par jour, si ce n'est pas plus. Donc après, ça va forcément détruire des parties de cerveau quand on est sur un syndrome de West. Et pour le coup, ça va se poursuivre avec une épilepsie souvent généralisée, puisqu'une épilepsie partielle. Alors, le diagnostic de l'épilepsie, aujourd'hui en France, on oublie que la meilleure façon de diagnostiquer une maladie, c'est ce qu'on appelle le domaine clinique. C'est le médecin ou la famille ou la personne elle-même qui va pouvoir décrire un certain nombre de ces troubles et qui va dire « moi j'ai ça », ou les parents qui vont dire « tiens, mon fils, ma fille, quand il revient de l'école, il est un peu perturbé, il y a des choses qui ne vont pas ». Et puis, il a les yeux qui sont révulsés, il a des mouvements sur le bras gauche, il a des mouvements sur le bras droit, il tombe quelquefois, ou il se laisse aller, ou il ne répond pas tout de suite. Enfin, il y a plein de facteurs qui vont démontrer cliniquement cette épilepsie. Donc, la meilleure des formules, c'est le regard qu'on va porter sur les personnes, sans forcément dire toutes les fois, il a tel ou tel tic, il a telle ou telle chose, c'est forcément de l'épilepsie. Non. Donc voilà, c'est la partie clinique où on peut diagnostiquer. Après un traumatisme crânien, souvent, il y a une partie du cerveau qui est lésée, un AVC, vous connaissez. Voilà, ça, c'est des parties qui vont se léser, qui peuvent donner des épilepsies. Et pour le coup, il faut les traiter. Ce diagnostic se fait après par ce qu'on appelle l'encéphalographie. On met des capteurs sur le cerveau. Dès qu'on a des électrodes sur le cerveau, des électrodes. Maintenant, on a des électroencéphalographies beaucoup plus pointues qu'avant, parce qu'avant, on mettait les fameux capteurs sur le cuir chevelu, on mettait de la colle, etc. Et puis, maintenant, on a la visio-encéphalographie. Avec l'ordinateur, on regarde plus facilement et on a un meilleur domaine de diagnostic. Ensuite, pendant l'examen médical sous électroencéphalogramme, on va faire à la personne, au patient qui se présente, on va lui faire faire se frapper les doigts, par exemple, faire des exercices, mettre on peut avoir avec ce qu'on appelle le stroboscope, des lumières très violentes, qui vont propulser et provoquer des épilepsies, ou par l'hyperpnée ou l'apnée, on fait ventiler très fort ou on fait ralentir, et on va vérifier à partir de tous ces éléments cliniques là comment l'épilepsie se déclenche, la crise d'épilepsie, parce que l'épilepsie c'est une crise, comment elle se déclenche. Voilà, donc maintenant on a le scanner, on a l'IRM, on a le PET scan, on a plein de matériaux et de matériel plutôt, qui permettent de mieux identifier et mieux diagnostiquer la maladie. Mais il reste encore dans cette maladie des choses assez troubles, qui peuvent arriver sans qu'on ait vraiment les causes de la maladie. Et on appelle ça des épilepsies cryptogéniques, c'est-à-dire que c'est des maladies tellement fuies qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Et la crypte, c'est la crypte de l'église. Vous savez, au fond de l'église, on ne savait pas, il y avait dessous l'église, et on ne savait jamais. Les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui encore, souvent ne savaient pas ce qu'il y avait dans les fondements de l'église. Voilà. Donc aujourd'hui, on appelle ça cryptogénique, c'est-à-dire sort de la crypte, c'est des épilepsies pas connues ou mal connues, qui intègrent sûrement deux phénomènes. Les phénomènes neurologiques purs, et puis des phénomènes un peu de psychisme psychiatrique ou pas, le psychisme qui peut intégrer les choses. Donc voilà, c'est ces problèmes, ces variantes, ces maladies. Oui, alors, donc, le déclenchement de la lumière, de l'intensité de la lumière, est un élément provocateur de crise d'épilepsie. Je parlais du thromboscope tout à l'heure, qu'on activait pour faire le diagnostic de l'épilepsie dans certaines crises, c'est ce qu'on appelle des épilepsies photosensibles. Donc elles arrivaient très fréquemment jusqu'aux années de modernité électronique, je dirais jusqu'à les années 90, parce que notamment des enfants qui venaient regarder à la télévision très près, avec le système des Hertz, vous savez, il y avait des images qui étaient saccadées comme ça, et ça provoquait de l'épilepsie. Des jeunes étudiants qui partent en boîte de nuit avec les stroboscopes qui partaient de partout, ils absorbent de l'alcool, maintenant un peu plus de drogue qu'il n'en faut, ou même qu'il n'en faudrait pas, et donc ils peuvent faire des crises d'épilepsie. Ils vont faire une crise d'épilepsie, pour cela, ça ne veut pas dire qu'ils seront épileptiques, ça ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose qui va s'installer dans la durée. Les jeux vidéo dont vous parlez, c'est vrai que si on y est tout le temps dessus, si on s'en répit, les enfants aujourd'hui, il faut être très attentif, parce qu'effectivement, si la pensée se canalise que sur cette affaire-là, on peut faire des crises d'épilepsie. Voilà. On avait eu, nous, l'avantage, vous savez, dans les années 80-90, là, il y avait des jeux japonais qui c'était les Nintendo. Et donc il y avait plein d'épilepsies dans la consultation qui arrivaient, plein d'enfants épileptiques qui arrivaient en consultation avec ça. Et donc on avait fait une expérience à l'IME Les Violettes avec un établissement pour adultes où je suis encore administrateur, qui s'appelle l'ATEP et qui est un terre-ermitage, c'est le plus vieil établissement de France pour les épileptiques, 1876 je crois. Donc, on nous avait donné gratuitement des Nintendo à l'établissement d'adultes et nous, l'établissement d'enfants et d'adolescents, pour voir si, effectivement, ça provoquait vraiment des crises d'épilepsie. Donc, on n'a pas mené l'expérience jusqu'au bout pour dire, allez, tu vas jouer pendant 48 heures, tu vois, non, c'est pas possible. Mais, effectivement, on savait que ces jeux-là pouvaient provoquer des crises d'épilepsie par le fait d'être posé continuellement et journellement sur cet truc. Alors les enfants, il n'y avait pas ces appareils à l'établissement, croyez-moi, parce que c'est... Voilà. Et même sur les ordinateurs, ça peut, à un moment donné, provoquer des crises d'épilepsie. Mais ce n'est pas pour autant que la personne sera considérée comme une personne ayant la maladie de l'épilepsie ou des épilepsies. Voilà.
Comment cette maladie est-elle apparue?
Oui, je crois qu'on connaît l'épilepsie, depuis, on a tendance à dire depuis la nuit des temps. Et l'Antiquité, effectivement, l'épilepsie était apparue. Alors, vous avez des gens comme Jules César, Alexandre le Grand, dont on sait qu'ils étaient épileptiques, pour dire que ça touche tout le monde, même les plus grands. Voilà, et on savait que ces gens-là étaient épileptiques parce qu'ils tombaient, ils faisaient des crises généralisées, ou des crises partielles qui évacuaient. Donc voilà, donc depuis l'Antiquité, on connaissait cette maladie. Hippocrate, qui est le patron des médecins, avait déjà marqué quelques lignes, expliqué ce que c'était cette maladie où on tombait, où on avait des gestes particuliers et des choses particulières. Jusqu'au Moyen-Âge, on a considéré l'épilepsie comme un peu la maladie des sorciers, des sorcières, des gens qui étaient un peu surnaturels, naturels. On pense, alors c'est un très bon livre qui avait été fait par un éminent scientifique français neurologue, le professeur Henri Weber, qui a fait l'histoire de l'épilepsie. C'est pour ça que je peux vous dire ça, parce que je ne suis pas si savant que ça, moi je n'aurais pas pu vous le dire. Donc Henri Weber avait fait ça, et l'histoire même de Jeanne d'Arc, qu'on a brûlée, qui avait entendu des voix, etc., avait sûrement une épilepsie liées à la menstruation, qui arrivent régulièrement chez les femmes, ou pas régulièrement quand même, mais enfin arrivent. Et on ne sait pas si elle a été brûlée comme une sorcière, parce que ceux qui avaient des épilepsies à cette époque-là, on les brûlait, parce qu'ils étaient possédés par le démon, ils étaient possédés par le diable. Donc on a aussi les histoires de la chrétienté avec Jésus dans la Bible qui guérit un épileptique, toutes les maladies mentales ont des références un peu comme ça. Donc il a fallu attendre le 19e siècle avec Charcot qui a dit « mais c'est une maladie neurologique, on n'a rien à voir avec la folie ». Et a commencé les premiers diagnostics qui ont différencié, qui donnent cette connaissance moderne aujourd'hui de l'épilepsie. Mais si vous voyez, cette épilepsie, on la connaît bien, bien aujourd'hui, au point qu'on peut opérer, par exemple.
Là, on a parlé de l'histoire, et où en est la recherche aujourd'hui là-dessus ? Sur l'épilepsie, est-ce qu'il y a des grandes découvertes ? Est-ce qu'il y a des grands mystères encore qui ne sont pas élucidés ? Est-ce que... voilà.
Alors la question sur les grands mystères, elle subsiste toujours et je pense qu'elle continuera à subsister. L'homme est ainsi fait, on a le cerveau a une telle possibilité, c'est des milliards de neurones qu'on a dans la tête, ralliés par des synapses. Et on sait qu'à une période, on disait, s'il y a une dégradation neuronale dans certaines zones de la substance blanche, l'épilepsie va perdurer, va servir. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément vrai. On peut perdre des neurones et il y a des connexions entre la droite et la gauche qui vont se remettre. Hein, voilà. Donc maintenant, l'avenir de l'épilepsie, c'est vraisemblablement la neurochirurgie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était entre 5% il y a quelques années, on est 10% aujourd'hui. Je pense qu'avec les ustensiles microscopiques qu'on a aujourd'hui avec l'internet, avec la robotique, technologie, on arrivera à opérer les épilepsies de manière beaucoup plus fréquente. Et puis, il y a eu beaucoup d'évolution dans les traitements, au point qu'on a eu des périodes où on ne connaissait pas tous les traitements. Le premier traitement qui a été découvert, c'est pendant la guerre de 1914 pour ce qu'on appelait les gueules cassées qui avaient après des troubles épileptiques. Et c'était le gardénal qui a été expérimenté pendant la guerre de 14-18. Et pendant des années, on a eu du gardénal. Il y a eu du gardénal avec ses dérivés, l'orténal, etc., etc. Moi, j'ai commencé à travailler en 62, avec des enfants déficients intellectuels et donc certains étaient épileptiques. Le seul médicament qu'on avait, c'est le gardénal et ses dérivés. Et puis, quand je suis arrivé aux Violettes en 1975, On a même, avec l'hôpital de Grenoble et Mme Simone Garel, neurologue, épileptologue, on a expérimenté les premiers médicaments, les premiers Tegretol, si on en parlait, et les premiers Dipakine. Après la phase clinique, laboratoire, etc., on est passé à la phase clinique sur les personnes. Et aujourd'hui, il y a 10, 15, 20 nouvelles molécules. Et donc, on progresse énormément sur la recherche. Et puis, la génétique nous apporte aussi des connaissances que nous n'avions pas il y a 20 ans, 30 ans. Donc, il y a de l'espoir pour que cette maladie soit mieux soignée et mieux guérie qu'aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut en guérir un jour de l'épilepsie ou on sera toujours à vie quand on l'est, une fois qu'on l'est ?
Oui, oui, on peut en guérir, bien sûr. On guérit, alors, avec les nouveaux médicaments et plein de choses, on n'est pas forcément guéri. C'est le cas d'Anne-Marie, mais elle est très bien stabilisée. Tu parleras de ton cas, peut-être aussi. On est très bien stabilisé, ce qui n'engêne pas la vie quotidienne et le problème de la vie de tous les jours. Et puis, il y a des guérisons qui se font avec la neurochirurgie. Moi, j'ai accompagné dans les années 80 le premier opéré d'épilepsie sur Grenoble, qui s'appelait Philippe Clerc, qui a été après son opération. C'est un chef d'entreprise qui faisait des crises dans son entreprise, etc., pour raconter l'histoire de Philippe. Donc je l'ai accompagné avant sa neurochirurgie et je l'ai raccompagné après sa neurochirurgie. Donc Philippe Clerc, après sa neurochirurgie, faisait plus de crises, au point que 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, je ne sais plus, il est aujourd'hui œnologue. Donc, on interdisait tous les excès, le café, le vin, le machin aux épileptiques. Lui, aujourd'hui, il est œnologue et il est psychanalyste. Vous voyez comment il a compensé, mais il est totalement guéri. Et aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de personnes, pas des centaines de milliers, puisqu'il y a 500 000 personnes et 600 000. C'est des plus de 1000 personnes qui sont stabilisées par la neurochirurgie. On a des amis dans notre groupe de réflexion sur l'Isère qui ont une neurochirurgie complètement positive avec une épilepsie qui a disparu. Quoi. Voilà. C'est l'avenir, il est là, je crois.
Comment agir si on est face à une personne en crise ?
Très, très bonne question. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de deux formes de crise, enfin, bien qu'il y en ait des centaines de formes de crise différentes. Mais j'ai parlé des deux grands schémas, la crise généralisée tonico-clonique et les crises partielles qui peuvent donner des manifestations de tous ordres. Devant une crise généralisée tonico-clonique, la personne va donc perdre conscience complètement, elle va tomber et les quatre membres, elle va agiter, elle va baver, elle va peut-être se mordre la langue. Donc qu'est-ce qu'il faut faire devant cette crise ? Eh bien, il ne faut déjà pas s'affoler. Il faut agir vite et on va mettre la personne en position latérale de sécurité. C'est-à-dire qu'on va la retourner pour ne pas la laisser sur le dos. On fait attention de protéger la tête en mettant un pull au vert, ce que vous avez sous la main pour qu'elle n'aille pas se cogner la tête pendant sa crise non plus. Donc on va la mettre sur le côté en position latérale de sécurité de manière à ce qu'elle puisse respirer un peu plus normalement. Et on va attendre que cette crise se passe. En règle générale, une crise tonico-clonique, ça fait entre 3 et 5 minutes. Allez, on peut aller jusqu'à 6 minutes. Parce qu'après, il y a une non-oxygénation du cerveau qui peut avoir des conséquences peut-être même plus importantes. Donc, c'est la façon. Et puis, on appelle bien entendu vite les pompiers. Et puis, il y a des traitements comme le Valium ou des médicaments plus récents et qu'on peut mettre dans la bouche qui vont arrêter la crise. Parce que c'est les décharges cliniques électriques dans le cerveau qui peuvent avoir des destructions au niveau du cérébral. Hein, et puis, léser certains ou les gestes ou la parole ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pour les crises généralisées tonico-cloniques. Sur les crises partielles, c'est toujours plus difficile d'observer. Mais il peut y avoir donc des déambulations, il y a des gens qui déambulent pendant des heures. Et il faut tout simplement être à côté, les rassurer, essayer de parler, beaucoup parler. Voilà, on dit que l'épilepsie, c'est, pour les crises généralisées, c'est une petite mort. Et donc il y a une interruption pendant quelques minutes de ce qui se passe autour. Donc nous, avec les enfants, on leur redisait qu'ils avaient fait une crise, tu viens de faire une crise. et ta crise, pendant ta crise, on était là, on t'a aidé, on t'a soutenu, on t'a accompagné. Voilà, mais tu as fait une crise, il n'y a rien de grave, puisque maintenant tu te réveilles de ta crise et tout va bien. On va continuer à t'accompagner. Voilà, donc c'est le plus compliqué, c'est ces crises partielles, parce qu'il faut accompagner les personnes. Et puis, malgré les traitements d'aujourd'hui, ce qu'il faut, où il faut alerter rapidement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de mal épileptique. Qu'il soit un état de mal généralisé ou un état de mal partiel. C'est-à-dire que la crise ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas, ou elle s'arrête, une autre va être déclenchée derrière, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Donc ça, c'est un état de mal, et là, il n'y a pas de 50 solutions, c'est l'hospitalisation, avec des perfusions de Rivotril, de machin, des médicaments aujourd'hui, qui vont faire cesser la crise, et l'enchaînement de la crise. Parce que le cerveau, notre cerveau, il enregistre en permanence des éléments. Et il va enregistrer la première crise, mais si, dans un sujet qui est épileptique, il va enregistrer la deuxième, et puis la deuxième provoque une troisième, etc. Voilà. Donc ça, c'est tout. Ça n'arrive pas peu fréquemment, mais ça arrive quand même, ce qu'on appelle l'état de mal épileptique.
La chose qui peut faire qu'on s'est blessé, je crois que vous en avez parlé, c'est de se cogner la tête. Parce que les tremblements, une des choses à faire... Vous avez dit mettre en PLS, mais des fois c'est compliqué de mettre la personne en PLS. C'est au moins d'essayer de protéger la tête devant où elle tombe, parce que le tremblement peut abîmer l'os crânien.
Comment vit-on au quotidien avec cette maladie? Quel comportement adopter pour éviter les crises?
Je crois qu'il faut aujourd'hui, l'épilepsie, on essaye de... comme on dit depuis plusieurs années, d'essayer de la faire sortir de l'ombre et dire que c'est une maladie comme toutes les maladies, qu'elle soit cardiaque, que vous ayez du diabète, que vous ayez autre chose. C'est une maladie intermittente, c'est pas une maladie qui est de longue durée, mais qui est intermittente chez les personnes pharmacorésistantes, et que ça ne justifie pas de rester sans emploi, que ça ne justifie pas de ne pas avoir de vie. Anne-Marie le dit fort bien, il faut vivre sa vie le plus sereinement possible et le plus sainement possible. On évite l'alcool, on évite le tabac, pas de stress, enfin une vie de plus calme possible et un peu plus régulée que... Voilà, bon. On le sait depuis longtemps, mais personne n'en a véritablement conscience. On a un cerveau qui est fragile, qui est excessivement fragile, même protégé par sa boîte crânienne, excessivement fragile, et donc on ne connaît pas encore une infime partie, on ne sait pas comment il évolue notre cerveau, il est en permanence en évolution depuis l'homme de Cro-Magnon. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que l'abus d'alcool, le tabac, les drogues, et avoir une vie tranquille et sereine et compagnie sans être obligé d'avoir ça, c'est le droit à la parole de tout le monde, le droit de machin, mais on n'est pas plus fort quand on boit, on n'est pas plus fort quand on se drogue, on n'est pas plus fort au contraire. Et bien sûr que ça a des atteintes irrémédiables sur le cerveau, irrémédiables.
Il faut vivre au jour le jour, prendre toujours bien son traitement, déjà. Faire les choses qui sont à notre portée, que tout ce qu'on est capable de faire, il faut le faire. Moi, je dis, ne jamais se prendre la tête, toujours voir les choses du bon côté. Et puis, il faut s'occuper, hein, il n'y a rien à faire, il ne faut pas rester inactive, ça, c'est pas bon non plus. Alors, parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est du négatif côté travail. J'étais dans un groupe, alors j'avais 28 personnes dans mon équipe, plus 26 personnes aussi de prestataires. Alors, je travaillais avec eux tous. Seulement, mon problème, c'est que je n'avais pas un vrai responsable, si je puis dire. Je dirais plutôt avec un I devant. Même pas le matin, quand il arrivait, il me disait bonjour. Il ignorait même d'ailleurs une bonne partie de l'équipe, à part ses petits préférés qui étaient ingénieurs. Et le reste n'existait pas. Alors ça fait que toutes les personnes, elles venaient vers moi, mais bon, ben moi, ça ne me gênait pas. Hein. De toute façon, leur rendre service, être toujours prêt. S'ils avaient besoin de quelque chose, ce n'était pas un problème du tout. Mais seulement, un beau jour, j'essayais quand même de comprendre toute seule, dans mon coin, ce qui se passait en lui, pourquoi il était comme ça avec moi, qu'est-ce qui se passait. Alors souvent, je me remettais en question, à chercher à comprendre le pourquoi, du comment. Et un beau jour, ça m'est arrivé au travail. Ça fait que je suis tombée. Je me suis fait mal. Vite, on m'amène bien sûr à l'infirmerie, on prend ma tension, tout ça. Et à partir de là, ils ont plus voulu de. Ils n'ont plus rien voulu savoir de moi, côté hiérarchique. Ils ont voulu se débarrasser, quoi, carrément. Ils m'ont dit de toute façon, tu ne travailles pas assez vite. C'était des. J'étais, alors que je faisais 9h à 9h30 par jour de travail. Même un jour, je suis allée voir un matin parce que mes nuits, elles diminuaient, avec le fait que je vivais mal dans le travail. Bon, j'avais tout un décalage horaire c'est-à-dire que comme je me levais tous les jours à 6h du matin, et ben après je me levais à 4h du matin, j'étais réveillée. De 4h du matin, c'était passé à 2h du matin. J'arrivais plus à manger. J'avais toujours soif. J'avais plein de. Je ne pouvais même plus aller déjeuner à la cantine avec mes collègues terminés. C'était plus possible. Et ils m'ont fait comprendre un sous-entendu comme quoi que en fait j'étais incapable de travailler, que finalement je travaillais pas assez vite. Voilà leur argument à eux.
C'était de votre faute, quoi.
Voilà. Alors ça je l'ai mal pris, je l'ai mal vécu. Ça m'a fait un système. J'ai fait de la dépression, ça m'a amené jusqu'à un certain burn-out que j'ai fait. J'avais plus le goût de la vie, même. J'aurais pu.
Ça vous a vraiment marqué.
Oui, parce que je sais que je suis encore là grâce à mes proches et heureusement qu'ils étaient là parce que je sais que je pouvais même dire. Je pouvais même mourir, traverser la route, qu'une voiture me rentre dedans, ça me faisait rien. J'ai dit, c'est peut-être mieux pour moi, si c'est pour vivre comme ça aujourd'hui. Si c'est ça, la vie, pourquoi faire? C'est pas la peine. À partir de là, après, il a fallu que j'arrête, qu'il ne fallait plus que je travaille avec ces personnes-là, qu'ils faisaient que de me. Harceler, de me mal me parler, toujours me crier dessus. Enfin, c'était horrible.
Et jusqu'à ce qu'elle fasse cette crise, tout allait bien dans son emploi. Elle était même reconnue comme une personne qui faisait très bien son travail. Et le jour où elle a fait cette crise, ça a traumatisé peut-être l'environnement, mais surtout le fameux cadre qu'elle avait au-dessus d'elle, qui ne supportait pas ça. Puis après, les reproches montent, et puis voilà. Donc ça veut dire qu'on est dans un système intolérant à quoi que ce soit. Et sur l'épilepsie, ce qu'on préconise maintenant, c'est de dire à l'employeur, sur une première embauche, pas forcément de dire à l'employeur, mais au moins de le dire à la médecine du travail, qui va être l'intermédiaire entre le demandeur d'emploi et l'employeur. Mais ne pas cacher l'épilepsie, parce que c'est, comme pour Anne-Marie, finalement, c'est un facteur de licenciement. Vous ne m'avez pas dit, vous êtes en train de me perturber le service parce que vous venez de faire une crise devant, voilà, devant tout le monde.
Et du coup, suite à ces problèmes professionnels, comment vous en êtes-vous relevé?
Je m'occupe là de l'association maintenant, et ça va très bien comme ça. Moi, ça me... Ah non, j'ai décidé de mettre un terme dessus, carrément tourner la page et même j'ai même reçu des mails, même des personnes qui essayaient de me joindre, de me contacter, même pour des fois pour faire un petit déjeuner, un truc comme ça. J'ai même refusé. J'ai dit je veux pas revoir des personnes où j'ai des mauvais souvenirs. Donc Donc
comment cette maladie est-elle perçue par les autres? Quels sont les préjugés les plus répandus et comment désamorcer ces préjugés?
Alors les gens par exemple qui disent qu'on peut avaler sa langue, ça c'est faux ça déjà. Ça c'est des bêtises, faut surtout pas y croire. Hein. On se mord la langue, d'accord, mais l'avaler, non. Alors, il y a ça. Comme quoi, aussi, qu'est-ce qu'on m'avait dit aussi? Ah oui, un jour, pareil, dans un autre secteur, enfin, dans un service, une fille, quand elle a vu, elle a appris que j'étais épileptique, elle m'a dit, bah, t'es épileptique? Bah, c'est fini, je te fais plus la bise, hein, parce que moi, j'ai pas envie de la voir, moi, ton épilepsie. Ça aussi, c'est des bêtises, c'est complètement... Faut pas croire des choses pareilles, c'est...
Sur l'histoire d'avaler sa langue, Anne-Marie vient d'en parler un peu, c'est vrai que c'est un des préjugés principaux qu'on a eu pendant des années. Moi, j'ai même connu en arrivant à l'établissement, Violette, donc une éducatrice qui s'est fait mordre le doigt, parce qu'on disait, vous mettez un bâton, vous mettez ce que vous pouvez pour éviter qu'il avale sa langue. Et donc les gens me trouvaient tout ce qu'il fallait, ils risquent de casser des dents, ils mettaient des cuillères, ils mettaient des trucs comme ça. Alors on a appris par l'expérience que c'est strictement interdit, parce que de toute manière ça ne régule rien et c'est plus dangereux pour la personne. Il n'y a pas de possibilité d'avaler sa langue. C'est-à-dire par contre, il faut dégager les voies respiratoires, c'est pour ça qu'on met en position latérale de sécurité. Et moi, on donnait, parce qu'on a fait des cours de secourisme aux pompiers de Paris quand j'ai démarré, on a démarré Épilepsie France, alors, même le Bureau français de l'épilepsie. Tout simplement, vous appuyez sur la glotte, là, vous avez les dents de salivaire, vous appuyez sur la glotte et les dents de salivaire, pour dégager la langue qui va permettre une meilleure respiration. Le problème, c'est qu'on n'avale pas la langue, mais la langue peut obstruer les voies respiratoires, enfin, au moins celle buccale. Et donc, effectivement, ça gêne la reprise de conscience parce que le cerveau peut manquer d'oxygénation à ce moment-là. Donc, c'est position latérale de sécurité. Et puis, éventuellement, on appuie sur les salivaires qui permettent à la langue de rester plus en place qu'elle ne pourrait ne pas venir obstruer le fond de la gorge. Voilà. Mais on n'avale pas sa langue. Ces préjugés sont archaïques. Ils sont multiples. Donc, de tout temps... Ouais, j'étais allé placer un enfant un jour en famille d'accueil à la Mure. Pareil, on m'a dit, mais c'est pas contagieux pour les autres enfants qu'on accueille. Il y avait plein de préjugés comme ça. Il subsiste encore ces préjugés. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épilepsie, ça reste la maladie du diable. C'est pas la maladie de Dieu. Ça reste, depuis le Moyen-Âge, la maladie du diable. Alors, ça n'a rien à voir. Je veux dire, alors, du coup, quel est notre souci au niveau national et au niveau départemental, je disais, c'est de faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'épilepsie, de la faire connaître et d'évacuer l'ensemble de ses préjugés. C'est pour le coup, on fait chaque année sur le département de l'Isère et au niveau national également, mais nous on a été dans les pionniers de ça, on fait les journées internationales de l'épilepsie avec le CHU de Grenoble. C'est le jour de la Saint-Valentin, puisque Saint-Valentin, c'est pas le patron des amoureux, croyez bien. Alors les garçons, vous n'êtes pas obligés d'apporter des fleurs, les dames, autre chose. C'est le Saint-Valentin est le patron des épileptiques au niveau religieux. Voilà. Donc on fait cette journée internationale pour démystifier la maladie épileptique et permettre qu'on comprenne mieux quels sont les facteurs qui tiennent aux autres. Alors dans les années 90-2000, on avait fait un micro-trottoir avec la Fondation de recherche sur l'épilepsie. Ça avait été ramené par le Figaro et il y avait des journalistes qui étaient passés pour dire qu'est-ce que c'est que l'épilepsie pour vous. Et je l'ai en tête parce que j'ai participé à cette étude. C'était abominable. C'est une des maladies en France qui avait des critères les plus péjoratifs qu'on ne puisse regarder, hein, aujourd'hui. Donc ça a changé un peu, mais heureusement. Voilà. Mais vous savez, on a beaucoup changé dans la mentalité. Toutes les personnes en situation de handicap, fort heureusement, Hein, aujourd'hui, grâce à l'action des associations, on avance un petit peu. Alors, il restera encore des choses. Hein, mais...
Moi, ma question, c'était à propos de la représentation de l'épilepsie dans les films et les séries. Est-ce que parfois, ça vous arrive de pester devant votre écran parce que ben voilà, c'est pas bien représenté et ça donne une mauvaise image au public ? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, tiens, là, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur devoir, c'est bien, ils ont fourni des recherches ? Voilà.
Non. Oui, alors, je ne sais plus en quelle année c'était, mais avec, pas l'Épilepsie France, mais le comité scientifique, la Ligue française contre l'épilepsie, on avait fait un séminaire presque sur 2 jours sur les références cinématographiques qui parlent de l'épilepsie souvent de façon très péjorative. Voilà, alors il y avait notamment, je ne sais pas si vous avez lu, le film 1900 avec Gérard Depardieu et comme il s'appelle l'acteur américain, là, je perds les noms, moi, j'ai des troubles cognitifs liés à la vieillerie. Et donc il y avait une scène incroyable. Alors on associe aussi épilepsie et sexe, machin, etc. Épilepsie, les épileptiques sont des gens monstrueux parce qu'ils assassinent, c'est des assassins, etc. Alors on avait regardé toute cette littérature et c'est vrai qu'elle était abominable. Et donc elle a concouru pendant des années à donner cette image très négative des personnes épileptiques. Donc on aimerait retrouver, mais il n'y a jamais de films qui vont dans le bon sens. Alors si on a eu un film qui était dans le bon sens, là, qui a été passé au mois de février l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec Catherine Diran étant une chanteuse connue dans les années 70, qui avait chanté machin en Italie, Retour en Italie, ou je ne sais pas quoi, taratatatati, bon, enfin. Donc elle a fait un film remarquable sur sa vie, qu'on a présenté à Grenoble en première instance. Et c'est un film à voir parce qu'il donne plein d'espoir à tout le monde, parce qu'elle se présente pas comme quelqu'un qui a vécu par une pression infinie de la part de sa famille, de la part de son environnement, le fait d'être épileptique, elle s'en est sortie. Elle était devenue chanteuse internationale à une période, Catherine Diran. Souvenez-vous de ça, Catherine Diran, vous regarderez ça sur Internet, sa vie. Et comment il s'appelait ce film ? Moi, j'ai... Voyage en Italie, voilà. Non, c'est Voyage en Italie, c'est la chanson Voyage en Italie. Ouais, bravo, bravo. Voilà. Donc regardez Catherine Diran et puis vous regarderez dans la cinématographie, c'est enfin un film qui donne de l'espoir.
Avez-vous un message à faire passer ?
Déjà, ceux qui ne connaissent pas l'épilepsie, qui ne parlent pas sans savoir, déjà. Qu'ils s'informent auprès des bonnes personnes, mais qui n'écoute pas Pierre, Paul, Jacques pour dire n'importe quoi. Et qui viennent, s'ils ont des choses à savoir, qui viennent nous rejoindre. Parce que nous, on est là, on est à leur portée, à leur écoute. Il n'y a pas de souci.
Alors moi, je rejoins tout à fait Anne-Marie. Je crois que le plus important, c'est de faire savoir, reconnaître cette maladie, et comme une maladie commune. 600 000 personnes, c'est pas mince aujourd'hui en France, donc informer en permanence, il faut qu'on informe en permanence et que les médias arrêtent de traiter cette maladie et encore comme une maladie un peu extraordinaire ou qui pose problème aux personnes. Voilà, donc on avait, dans le passé, on a eu quelques émissions télé qui étaient positives et puis maintenant on voit surtout l'épilepsie par le handicap lourd, c'est-à-dire ces épilepsies pharmaco-résistantes mais aussi avec des troubles cognitifs majeurs, etc., ou des troubles psychiatriques majeurs, c'est qu'une petite partie de l'épilepsie, c'est qu'une partie du symptôme. Aujourd'hui, les gens qui sont avec Épilepsie France, c'est des gens qui sont dans la vie quotidienne, comme vous et moi, qui font des études, certains universitaires, même d'ailleurs des études universitaires, qui sont à l'emploi, ce qui est Anne-Marie. Alors après, il faut lutter contre ces attitudes négatives pour tout le monde, cette pression que tout handicap connaît d'ailleurs, hein. Ce n'est pas lié qu'à l'épilepsie. Hein. Sur le plan du handicap, il y a tellement de choses encore à faire. Voilà, il faut qu'on se mobilise les uns les autres. Et puis, ce qui est important, c'est que, à mon avis, la parole d'abord, et c'était la philosophie d'Épilepsie France dès le début, la parole d'abord aux usagers, et en priorité les usagers, et les professionnels que j'étais et que je continue à être un peu, mais sans rémunération, les professionnels se mettent à l'aide des personnes en situation de handicap, ou pour vous les épilepsies, mais qu'on ne vienne pas devant la scène. Je vais vous raconter une anecdote. Quand on a fondé les statuts d'épilepsie France, enfin du Bureau français de l'épilepsie, en juillet 91, on a travaillé 2 ans avant, et on a pris la décision que jamais un médecin ou un professionnel de santé ne deviendrait président de cette association. Donc les présidents successifs depuis 91 ont toujours été soit des personnes épileptiques elles-mêmes, soit des parents d'enfants épileptiques ou d'adolescents épileptiques ou d'adultes. Mais ça n'a jamais été un professionnel. On voulait sortir du mandarinat médical où les grands professeurs toisaient tout le monde et redisaient à tout le monde ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. La chose d'Épilepsie France aujourd'hui, c'est les patients d'abord, aidés par des professionnels, et il n'y a pas un discours qui prédomine sur le discours de l'autre. Et on s'enrichit mutuellement, nous, moi, en écoutant les personnes atteintes d'épilepsie, et ces atteintes d'épilepsie, elles ont beaucoup de choses à dire. Je crois que le discours d'Anne-Marie est clair, il faut qu'on discute et qu'on explique les choses. Mais je crois que c'est important qu'on aille dans ce sens-là.
Sans mot de tête,
la web radio du GEM.
Moi, je vois que à 14 ans, je me suis branché. Je rendais les messages, les trucs de bruit là et tout. C'est impec. Avec la radio, ça nous a fait du bien.
Sans mot de tête, la web radio sans prise de tête.